Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans la rose des vents, on part à la rencontre d'un activiste du Burundi, réfugié en Suisse. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Samuel.
En février dernier, la Guinée-Bissau a accueilli la deuxième conférence internationale sur l'activisme en Afrique. C'était l'occasion de discuter des dynamiques de transformation sociale du continent. Alors, selon les organisateurs de cette conférence, l'espace public africain est devenu une arène pour l'action des mouvements citoyens. Daniel, plusieurs de ces mouvements ont émergé ces dernières années.
En effet, Samuel, dans un contexte encore marqué par l'héritage de longues dictatures, l'Afrique bouge. Fatigués, usés par de fausses promesses, ces citoyens rêvent de changement. Face à un durcissement des conditions de vie pour le plus grand nombre, des crises politiques récurrentes, la société civile est souvent laissée pour compte. Or, depuis quelques années, les Africains disent « trop, c'est trop ». Du Maghreb à la zone subsaharienne, la société civile se mobilise de plus en plus. Et c'est ainsi qu'émergent divers mouvements citoyens en faveur des droits de l'homme, de la liberté d'expression ou contre la corruption. Sortir du bois, c'est le but. Certains citoyens ainsi sont passés du statut de spectateur à acteur.
Alors j'imagine que cet engagement, selon les contextes politiques, a un prix.
Absolument. Ce combat a un prix, parfois très lourd, notamment pour les personnes engagées en faveur des droits de l'homme au sein des ONG ou les activistes. Le sujet à venir raconte l'histoire d'un ancien activiste qui vit aujourd'hui en Suisse. Il nous raconte l'origine de son engagement, sa fuite et son intégration en Suisse. Un parcours jonché d'épines avec l'angoisse perpétuelle d'être retracé ou dénoncé. Après avoir connu l'immensité des collines vertes et des forêts de la région des Grands Lacs, les camps de réfugiés, je retrouve cet homme, loin des siens, en exil, qui vit actuellement près de chez nous. Nous commençons par une question qui concerne ses souvenirs d'enfance. J'étais en fait curieuse de comprendre comment était née sa fibre altruiste.
Mes souvenirs sont, que j'ai gardés dans mon enfance, c'est le travail, c'est le respect, la considération de la valeur humaine.
Est-ce que ce sont des valeurs qui vous ont été inculquées par vos parents ?
Oui, mes parents m'ont éduqué à aimer le travail, à travailler pour soi-même et à travailler pour les autres, surtout.
Dans quel contexte avez-vous grandi ?
J'ai grandi dans un contexte calme, dans une région où on nous éduquait à respecter la personne humaine, où on nous éduquait à respecter le bien d'autrui, où on nous éduquait à ne pas violer le droit de l'autre.
Enfant et adolescent, est-ce que vous étiez déjà sensible aux injustices ?
J'étais déjà sensible aux injustices parce que j'étais adolescent, j'étais dans la classe de 9e année, j'étais délégué de l'école, de la classe, et nous avons assisté à une injustice envers une fille qui habitait chez l'administrateur et à un garçon qui venait d'une famille pauvre, et lui, ils sont injuriés, mais on a donné un renvoi de ce garçon, et nous nous sommes levés pour dire non, et nous avons fait une grève, et cette grève a abouti à un renvoi de tous les délégués de ces classes, et j'étais parmi
ces jeunes.
Oui.
Vous étiez donc déjà engagé, jeune adolescent. Jeune adulte, vous décidez de poursuivre des études en psychologie. Pourquoi ce choix ?
Parce que je voudrais comprendre les comportements des uns des autres et me comprendre moi-même d'abord, et puis pouvoir aider, pouvoir comprendre les valeurs sociales, et aussi pouvoir comprendre les différences, la différence comportementale. C'est cette formation. Je l'ai faite pour contribuer surtout au changement de mentalité. Quand on vit dans une communauté, on regarde et on voit, on constate. Et j'ai vu alors que ces injustices, et ça me choquait. Et c'est pourquoi je militais pour qu'il y ait une justice équitable.
Après vos études, vous êtes engagé dans une ONG en faveur des droits de l'homme. Quelle expérience vous a incité à vous intéresser aux droits humains ?
Je me suis intéressé aux droits humains parce que j'ai senti déjà, quand j'étais encore jeune, je voyais déjà qu'il y a des violations des droits de l'homme, surtout une mauvaise gouvernance. Même si on est jeune, c'est pas difficile de remarquer ça. On n'a pas accès à un droit, on ne peut pas jouir à un droit. Moi, depuis quand j'étais adolescent, j'avais fini les humanités générales. Et j'avais le droit de vote, de lire. Et puis là, j'ai vu comment les politiciens mènent la campagne électorale. Et puis, j'ai voté aussi. J'ai vu comment ils tiennent des promesses qui ne sont jamais honorées. Et là, je me suis dit que j'irai jamais dans un parti politique, mais je m'intéresserai à la défense des droits de l'homme. On peut sensibiliser, on peut amener la population à un changement de mentalité et aussi à la population à un développement qui est réel.
Mais qu'est-ce que vous vouliez exactement apporter à la population que vous souteniez?
Moi, je voudrais justement défendre les droits socio-économiques, et surtout, ne fût-ce que les droits fondamentaux, le droit à l'éducation, à la santé, le droit à la vie aussi.
Et à la liberté d'expression aussi.
À la liberté d'expression.
Dans le cadre de votre mandat, qu'est-ce que vous avez fait exactement, justement, en faveur des droits?
Dans cette ONG, j'ai participé à la sensibilisation des communautés. C'est surtout la lutte contre la corruption. C'est aussi la bonne gouvernance. Et aussi sur les projets de développement communautaire.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un modèle de bonne gouvernance?
Un modèle de bonne gouvernance, c'est quand la population s'exprime, a un droit d'expression et que le gouvernement puisse respecter et réaliser
ses promesses. Quels moyens est-ce qu'on utilise pour sensibiliser une population justement à ce phénomène de corruption?
Les moyens sont multiples, mais le moyen qu'on utilise, c'est la sensibilisation, c'est le plaidoyer, pour que les pouvoirs publics puissent quand même s'activer et aussi essayer d'asseoir une bonne gouvernance, essayer de travailler pour la population. Ce qu'ils disent dans les discours pour qu'ils puissent quand même les mettre en pratique. Et ce qu'ils font, ils élaborent des stratégies, il faut que les stratégies soient mises en œuvre. Il faut que les mécanismes internationaux ou ils doivent ces mécanismes-là doivent être respectés.
Comment est-ce que ces messages sont reçus par la population?
En fait, la population, quand on sensibilise la population, on écoute aussi ce qu'ils émettent comme solution, comme opinion. Et puis là, on essaie de les sensibiliser pour les éclairer sur leurs droits et aussi sur leurs devoirs. La population soumette son opinion. Et on essaie de soumettre ça au pouvoir public qui doivent exécuter, respecter, réaliser.
Est-ce que vous avez eu des résultats positifs, des actions engagées?
Oui, maintenant, je pense que la population est consciente de cette lutte. Elle est consciente des changements qui ont été faits par ces activités de lutte contre la corruption, ces activités de sensibilisation. Et maintenant, elle peut parler d'elle-même, et même si c'est encore difficile pour le pays.
Le Burundi connaît une situation politique comme la région des Grands Lacs, assez instable ces dernières années. Vous décidez de gagner le rang des activistes. C'est quoi au juste un activiste? Et comment est-ce qu'on devient un activiste?
Un activiste, ce n'est pas un métier. Pour défendre les droits de l'homme, ce n'est pas un métier qu'on... Mais être activiste, c'est une vocation. On le sent et on le fait. La situation s'est envenimée alors que j'étais déjà activiste parce que à la sortie de l'école, j'ai regagné cette ONG pour contribuer. J'étais déjà activiste. On a refusé. C'était pas moi seul, c'était toute la population qui a refusé qu'il y ait violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qu'il y ait respect de la Constitution sur tout ce qui est lié au mandat présidentiel. Et on a milité pour cette défense-là et on a fait des manifestations pour exprimer notre opinion.
Comment se passe la journée d'un activiste?
Les activités sont diverses parce que dans les droits, il y a des droits civils et politiques, il y a des droits socio-économiques. Et un activiste, il planifie ses activités qui sont inhérentes à la défense des droits, à la sensibilisation ou au plaidoyer ou à parler pour le peuple.
Comment est-ce qu'on fait passer les messages au sein de la population? Est-ce que c'est plutôt des manifestations, des flyers qu'on distribue?
Alors, c'est beaucoup de moyens qu'on peut utiliser, que ce soit une manifestation, que ce soit des flyers ou une sensibilisation à grande portée ou une sensibilisation dans les communautés. Et c'est beaucoup de moyens qu'on peut utiliser pour sensibiliser la population.
Quelle figure de l'histoire a marqué vos luttes?
Et surtout, quand j'étais jeune, on nous parlait de Sankara. Et là, parce que Sankara, il a mené la population à travailler pour elle-même. Il a mené la population à être très consciente que le travail, c'est le travail qui ennoblit l'homme. Et que c'était un président qui travaillait pour la population.
Est-ce que vous avez le sentiment que les activistes sont menacés en Afrique?
Oui, les activistes sont justement menacés et depuis longtemps, ils sont menacés. Il y a des activistes même qui ont été assassinés. Moi, je parle maintenant du cas d'Ernest Manirumba qui a été assassiné dans la nuit du 8 au 9 avril 2009. Et il a été assassiné parce qu'il défendait les droits de l'homme. Parce qu'il était activiste réellement. Et puis, les activistes sont justement menacés. Et aujourd'hui, ils sont en exil parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé la violation de l'accord d'Arusha. Ils ont refusé ils ont voulu qu'elle soit respectée. L'accord et ils ont voulu qu'elle soit respectée, la constitution. Et ils ont voulu qu'elle soit respectée, la population.
Pour quelles raisons, Emmanuel, avez-vous dû fuir votre terre natale?
J'ai dû fuir ma terre natale parce que ressentir qu'on aime, donc, qu'on peut être assassiné ou qu'on peut être mis en prison. Et qu'on peut mourir. Là, j'ai quitté mon pays parce que j'étais menacé. J'étais menacé parce que j'ai fait une manifestation, j'ai sorti mon opinion comme les autres qui ont manifesté contre ce troisième mandat. En 2015, la population burundaise s'est mise dans la rue pour réclamer le respect de l'accord d'Arusha pour amener le pouvoir exécutif, surtout le président de la République, à respecter la Constitution en ce qui concerne la limitation des mandats. Et le pouvoir public a persécuté, a menacé et a pourchassé ceux qui ont participé dans ces manifestations. Et moi, j'étais parmi ceux-là et qui ont dû fuir.
Aujourd'hui, est-ce que la lutte est encore permise à distance?
L'activisme, c'est pas un métier, c'est une vocation. Et de cela, quand même on est à l'extérieur du pays, on continue à militer. On continue à militer, mais à une autre, pour, donc année, on milite à distance et on apporte quelque chose qui, comme quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, c'est pas la même chose qu'une personne qui est à l'intérieur du pays. On milite, on utilise d'autres moyens qui sont à la portée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on utilise les téléphones, on utilise beaucoup de moyens qui permettent de continuer à militer pour les droits.
Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être retracé justement en militant à distance?
Puisque je me suis j'ai engagé depuis longtemps, moi je me dis que même si je dois craindre ma sécurité, je pense que l'engagement compte beaucoup plus que ces risques de sécurité. Même si on est en exil, est-ce qu'on continuera à partir, à s'exiler et, je ne sais pas, mais je pense que je continuerai à militer pour les droits de l'homme.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les activistes en exil, justement ?
Les activistes en exil rencontrent beaucoup de difficultés. C'est les difficultés liées à la sécurité, à la sécurité, et aussi les difficultés liées à la vie. Quand on n'est pas chez soi, on rencontre beaucoup de problèmes. Et surtout, on doit s'intégrer dans ces pays d'exil. On doit continuer à militer pour les droits. Et on continue à penser, à faire quelque chose, à contribuer pour un développement meilleur pour ton pays. Donc, le corps est là, mais le cœur est loin.
Est-ce qu'il est difficile ici de s'intégrer en tant qu'activiste quand on a toujours pour militer une forme de liberté et de défense des droits de l'homme?
C'est difficile, mais c'est difficile, mais aussi c'est pas beaucoup difficile parce que quand on a milité pour les droits de l'homme, quand on est défenseur des droits de l'homme, on est un citoyen du monde et on milite, on s'intègre parce que là où il y a une autre personne et que aussi on respecte la personne, on peut vivre avec cette personne. Et pour un défenseur des droits de l'homme, s'intégrer en exil, s'intégrer dans le pays, c'est difficile des fois, mais aussi c'est pas trop difficile parce que la capacité de gérer, la capacité de vivre ensemble avec les autres, c'est cette capacité qui amène la personne à s'intégrer correctement.
Quels sont vos projets d'avenir, Emmanuel?
Mes projets d'avenir, c'est de continuer à travailler pour les communautés. Voilà où je serai, que ce soit en exil, et que ce soit dans mon pays. Je continue d'avoir mon projet de vie que j'ai commencé depuis longtemps à militer pour les droits de l'homme.
Ici en Suisse, est-ce que vous auriez envie de vous engager?
En Suisse, je ne sais pas, mais parce que donc on n'est pas bien outillé pour s'engager, mais je pense que je travaillerai autrement parce que la justice des droits partout dans le monde, on peut déjà contribuer à la défense de ces droits.
Merci à Emmanuel pour ce témoignage touchant. L'activisme répond à un engagement politique qui privilégie l'action directe. Alors certains vont jusqu'à parler de militantisme tellement exacerbé qu'il pourrait enfreindre la loi. Daniel, est-ce que braver la loi pourrait, dans certaines circonstances, apporter un souffle nouveau à des modèles de gouvernance de type autoritaire?
C'est ce qu'on pourrait imaginer et souhaiter. Le but de ces mouvements portés par des actions directes vise à éveiller les consciences sur diverses problématiques de société, comme les droits de l'homme, l'accaparement des terres, la liberté d'expression. Et ces activistes luttent pour des transformations sociales en vue de développer en fait, des sociétés plus égalitaires et suggérer un modèle de gouvernement plus juste.
Alors, il y a effectivement un nouveau souffle qui souffle sur l'Afrique avec des mouvements citoyens comme par exemple le ballet citoyen, le sifflet ou encore les Yanamar. Merci Daniel pour ce sujet que vous pouvez retrouver sur www.django.fm sur la page La Rose des Vents.
Tamotua Conco bemolula Nilayaki Ketanya Tamotua Sasa bemolula Politiki manke tulunkuti.
C'était Ablaïssi Soko avec Politiki.